Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Alors un épisode un peu spécial et plus conjoncturel que d'habitude sans doute, sur la réforme des retraites et sous l'angle des positions que l'extrême droite a prises sur cette question. Dans cet épisode, on va aborder un peu plus largement les positions de l'extrême droite en matière économique et sociale, en France en particulier, en évoquant un peu les cas à l'international, et en particulier revenir sur l'évolution des positions du Front National, puis du Rassemblement National en matière économique et sociale. Et puis, on abordera également les caractéristiques du fascisme historique en la matière, et notamment son rapport avec le capital. En se confrontant notamment au fait qu'il y a l'illusion chez beaucoup que le fascisme aurait été soit une rupture, en quelque sorte, au moins partielle avec le capitalisme, soit un système en tant que tel, distinct du capitalisme et distinct du socialisme, une sorte de troisième voie, qui est précisément d'ailleurs en réalité la position des extrêmes droites elles-mêmes sur ce qu'elles font et sur ce qu'elles sont, c'est-à-dire soi-disant une troisième voie entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre le socialisme et le capitalisme. Ce que, de fait, le fascisme n'a jamais été, puisque le fascisme a été une manière de gouverner en quelque sorte le capitalisme sur le mode de la tyrannie, par l'écrasement de toute forme d'opposition, de toute forme de contre-pouvoir, en particulier des contre-pouvoirs ouvriers, syndicaux, politiques, mais aussi des contre-pouvoirs intellectuels, artistiques, etc. Pour en parler, on reçoit Denis Durand, qui est économiste, co-directeur de la revue Économie et Politique, la revue économique du PCF. Merci Denis.
Merci de l'invitation.
Alors, peut-être commençons par le plus immédiat, l'enjeu le plus immédiat, qui est la mobilisation contre la contre-réforme des retraites, une énième contre-réforme des retraites que Macron cherche à imposer contre l'ensemble des syndicats et contre la très grande majorité de la population, en particulier de la très grande majorité des actifs, des travailleurs actifs et actives. Quelles sont les positions du RN sur cette contre-réforme des retraites et plus globalement sur les retraites ?
Alors le RN a énormément fait pour essayer de faire croire qu'il est avec le mouvement d'une certaine façon. Il se prononce contre la réforme de Macron et il fait état de ses propositions qui avaient déjà été beaucoup mises en avant dans la campagne présidentielle et qui consistaient à annoncer la retraite à 60 ans pour tous. Alors on avait ça dans les discours de Marine Le Pen et puis quand on regardait le programme d'un peu plus près, on s'apercevait que c'était peut-être 60 ans pour les gens qui avaient commencé à travailler avant 20 ans, avec 40 années de cotisation, que pour les autres, ça serait plus tard, et que pour ceux qui avaient commencé à travailler à 25 ans, il faudrait attendre 67 ans pour avoir leur retraite à taux plein. Mais ça, pour ça, il fallait lire le programme jusqu'au bout. Et le FN, le Rassemblement National, continue de brandir son opposition au report de l'âge de départ en retraite. Il essaye de se présenter comme adhérent à la revendication du mouvement social qui est non seulement ça, mais même la retraite à 60 ans, alors que dans le fond de sa doctrine, ça n'est pas du tout le cas. Et alors il y a quelques cas où il se démasque, par exemple quand Bardella a annoncé qu'il ne soutenait pas le blocage de l'économie qui était annoncé par les syndicats. Et le problème, c'est qu'on a ce mouvement social très puissant, très maîtrisé d'une certaine façon, même si c'est un des plus forts qu'on ait connu dans l'histoire du pays, et en même temps, quand on essaie de regarder les perspectives politiques, on a l'impression que c'est l'extrême droite et le Rassemblement National qui en profitent le plus. Donc alors, il y a vraiment une contradiction.
Voilà, alors il y a une contradiction. Est-ce que tu as quelques pistes d'explication sur ce paradoxe qui veut que le RN, alors effectivement, s'oppose à la contre-réforme des retraites, à cette contre-réforme des retraites, mais n'est pas favorable au mouvement, s'oppose aux grèves reconductibles, qui sont quand même un des cœurs du mouvement actuel, qui n'est pas pour la retraite à 60 ans pour tous et toutes, à taux plein. Et donc, voilà, dans un sondage récent, alors c'était en février, Marine Le Pen est considérée comme la principale opposante au projet de contre-réforme, légèrement devant Jean-Luc Mélenchon, particulièrement au sein des classes populaires. Et il y a un sondage encore plus récent qui suggère que le FN et RN pourraient être la force politique qui profiterait le plus du rejet de la contre-réforme des retraites. Alors, voilà, comment on explique ce paradoxe ? Alors, évidemment, il y aura sans doute des travaux, tout un tas de réflexions qui seront développées dans les mois à venir. Est-ce qu'on a quelques pistes déjà ?
Alors, il y a plusieurs pistes, certainement. L'une d'entre elles, je pense, c'est l'histoire des différents mouvements fascistes, parce qu'on peut vraiment affirmer que le Rassemblement national se place dans cette filiation de l'histoire du fascisme. Et une de leurs caractéristiques de tout temps, ça a été précisément leur capacité à dire n'importe quoi, à agiter de la démagogie sociale pour attirer les couches populaires ou les couches moyennes derrière leur projet, alors que à la fin, leur arrivée au pouvoir est l'œuvre, et ça c'est peut-être la deuxième piste à considérer, leur arrivée au pouvoir, elle se déroule sous le contrôle et à suite de décisions qui viennent plutôt du côté du capital. Mais c'est vrai que, bon, on sait que Mussolini était un ancien socialiste, qu'il a agité cette démagogie. J'ai entendu dire que dans l'Allemagne des années 30, il y avait des gens qui croyaient à la théorie du Hiftek, c'est-à-dire que les nazis c'était brun à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Donc il y avait cette façon de se réclamer du socialisme pour attirer les masses mécontentes et les entraîner dans une direction où là, ce qui devient déterminant, c'est non plus la revendication sociale, mais l'idéologie fasciste, raciste, antisémite, dans le cas de l'Allemagne en particulier. Et on retrouve ça dans le Rassemblement national. Dans le Front national d'abord, alors on a l'émergence de Le Pen, très extrémiste, très provocateur dans les premiers temps, et porteur d'un programme très néolibéral en réalité, très inspiré de ce qui se passait à l'époque aux États-Unis. Et puis, une période avec l'arrivée de Marine Le Pen au premier plan, de tentatives de banalisation, de transformation du Front national, puis du Rassemblement national en une force respectable, avec une coloration plus ou moins sociale. Mais là encore, l'exemple des retraites montre bien que quand on cherche un petit peu derrière le discours, on retrouve en réalité le programme du patronat. De la même façon, même encore aujourd'hui, le Rassemblement national ne veut pas augmenter les salaires. Il faut que ce soit les patrons qui le décident. Ou alors, si on propose une augmentation des salaires, c'est avec comme contrepartie la baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on ruine le financement de la sécurité sociale.
Ce qui, dans les deux cas, n'est pas très différent de ce que font les néolibéraux au pouvoir. C'est-à-dire que Macron a aussi dit que les entreprises devaient augmenter les salaires. Enfin, c'est des sortes d'incitations verbales. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et sur les cotisations, de fait, c'est la baisse des cotisations ou la stagnation des cotisations, alors même que les dépenses liées à la protection sociale augmente un peu mécaniquement du fait du vieillissement de la population. Bon, voilà, c'est quelque chose que mettent en œuvre à peu près tous les gouvernements libéraux depuis taper dans les cotisations ou faire stagner les cotisations depuis trois décennies au moins.
Complètement. Et par exemple, alors, un autre thème agité par Marine Le Pen, c'est la réindustrialisation du pays. Mais la réindustrialisation du pays, d'après elle, c'est en faire encore plus dans les exonérations de cotisations sociales ou dans la suppression de ce qu'ils appellent les impôts de production. Donc c'est exactement la politique de Bruno Le Maire aujourd'hui, peut-être en un petit peu plus accentuée et encore, mais c'est la même logique. Et Marine Le Pen insiste énormément sur le fait qu'il ne faut pas imposer de contraintes supplémentaires aux entreprises. C'est vraiment cette doctrine-là.
Tu parlais de la période où Jean-Marie Le Pen, dans les années 80 notamment, se présentait comme le Reagan français et avait comme rêve d'ailleurs de rencontrer, de serrer la main de Ronald Reagan, ce qu'il a fait. Là, les positions que tu évoques sur la baisse des impôts dits de production, tu vas peut-être nous dire exactement de quoi il s'agit, hein, et sur, par exemple, les exonérations d'impôts pour les jeunes qui décideraient de créer leur boîte, etc. Bon, voilà, c'est dans la continuité de ce qui était plus ou moins la doctrine économique, entre guillemets, du FN, contre l'impôt, etc.
Ah oui, et surtout contre toute atteinte au pouvoir patronal. Je pense que c'est vraiment le cœur, aujourd'hui, du discours de Marine Le Pen, et c'est tout à fait cohérent avec l'orientation néolibérale qui est en réalité sous-jacente depuis le début. Et donc, effectivement, d'une part, on va continuer la politique de réduction des prélèvements fiscaux ou sociaux sur les entreprises. Donc, ce qu'ils appellent les impôts sur la production, c'est exactement ce qu'est en train de faire le gouvernement actuel, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est le dernier reste de ce qui était la taxe professionnelle, qui était une façon de maintenir un lien entre la fiscalité des entreprises et le territoire sur lequel ils sont implantés. Ils veulent en finir avec ça, c'est 8 milliards ou 9 milliards en moins de recettes pour l'État. Ils l'assument et ils s'en servent même de justification pour la réforme des retraites. Et ça, le Rassemblement national est complètement en phase avec ça. La doctrine principale, c'est qu'on ne conçoit pas le soutien de l'offre, le soutien de l'économie, autrement que par des allègements des contraintes, qu'il s'agisse des contraintes réglementaires ou de la pression fiscale, sur le patronat. Et en revanche, alors, sur l'emploi, jamais il n'est question de, par exemple, s'attaquer au fait qu'aujourd'hui, un quart des personnes en âge de travailler ne sont pas pourvues d'un emploi qui leur permet de travailler correctement, soit parce qu'elles sont touchées par le chômage ou par le chômage partiel. Et ça, le Front National, absolument rien du tout. Et au contraire, c'est la dénonciation des assistés et le soutien à l'idéologie néolibérale qui aujourd'hui s'identifie aux déclarations provocatrices de Macron, mais auxquelles le Rassemblement National souscrit complètement, puisque ça fait partie de sa façon de diviser les couches populaires en essayant de monter une partie d'entre elles contre ceux qui sont privés d'emploi ou placés dans des situations où ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs propres besoins.
On pourrait aussi se dire que l'offensive néolibérale portée par Macron, incarnée par Macron, est tellement radicale, elle vise à ce point à détruire, à démanteler toutes les conquêtes de la classe travailleuse du XXe siècle, que les propositions qui ne sont pas du tout avancées en matière sociale et économique, avancées au sens progressiste, au sens du progrès des conditions de vie des classes populaires, les propositions du FN, du RN aujourd'hui, c'est une sorte de statu quo et même de régression, mais de régression relativement modérée par rapport à ce qu'avance Macron, eh bien, apparaissent comme une forme de défense pour une partie des classes populaires qui ne croient pas peut-être dans la possibilité et d'une victoire sociale, par exemple, contre Macron, et d'amélioration beaucoup plus substantielle de leur situation et leurs conditions, notamment la retraite à 60 ans, peut-être aujourd'hui apparaît comme un objectif irréalisable et donc finalement se dire, pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans, avoir la retraite à 60 ans, et pour les autres, travailler jusqu'à 67 ans, eh ben, c'est finalement un moindre mal, quoi. Donc le FN, en quelque sorte, comme un moindre mal par rapport au néolibéralisme forcené incarné par Macron.
Alors, on pourrait dire ça. Et alors, le problème, c'est à la fois l'épuisement idéologique du néolibéralisme tel qu'il est incarné par Macron et une apparence impuissante de la gauche à incarner l'alternative. Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment une crise de régime. Bon, il y a déjà un contexte économique qui nourrit la montée de l'extrême droite depuis maintenant plusieurs décennies. Et ce contexte économique, on n'en voit pas la sortie. On a eu le rebond après le confinement en 2020, mais qui ne débouche pas sur un nouvel essor économique. On évite péniblement la récession et on n'est pas sûr de continuer à l'éviter. Mais tout ça, c'est au prix d'une injection massive de liquidités par les banques centrales dans l'économie. Alors pendant 30 ans, les milliers de milliards de dollars injectés par les banques centrales n'ont pas provoqué d'inflation sur le marché des biens de consommation. Et maintenant, ça y est, depuis l'année dernière, l'inflation est en train d'exploser. Et personne ne peut affirmer, contrairement à ce que dit le gouverneur de la Banque de France, que ça va s'arrêter l'année prochaine. L'histoire ne se répète pas, mais c'est un des points communs avec la période des années 30 et du montée du fascisme en Europe. Ce contexte-là nourrit un mécontentement, une colère et une perte de confiance dans l'État. Et là, avec l'affaire des retraites, ça apparaît au grand jour. Macron n'a plus d'arguments pour défendre sa politique. Et donc la population s'est détachée. Et ça, c'est vraiment la composante d'une crise de régime. Parce qu'en principe, l'État fonctionne sur deux dimensions. D'une part, une certaine forme d'adhésion de la population. Et d'autre part, l'usage de la force. Et là, maintenant, il n'y a plus l'adhésion de la population. Il ne reste plus que la force. Et là, le RN, il peut même se permettre le luxe de dire que cette réforme est trop brutale, que si on les écoutait, on n'aurait pas autant de violence dans la société. Mais on a des bonnes raisons de penser que le pouvoir actuel ne va pas trouver de moyen de récupérer une adhésion de la population. Il a vraiment des raisons très profondes de poursuivre dans cette politique de démantèlement social et une grande difficulté pour la justifier. Par conséquent, la crise politique, on peut penser qu'elle va continuer comme ça. Et dans ce contexte-là, on peut avoir le choix, par les classes dirigeantes, d'ouvrir la porte à l'extrême droite pour poursuivre par d'autres moyens la politique qu'ils n'arrivent pas à faire admettre par la population aujourd'hui.
C'est quelque chose qu'on voit d'une certaine manière dans d'autres pays. La classe dominante italienne n'a pas eu de problème particulier à soutenir, pour une partie d'entre elles en tout cas, et à nouer des alliances via, par exemple, Berlusconi avec Meloni, qui incarne, on va dire, la continuité du courant néofasciste en Italie via son organisation Fratelli d'Italia, dont on avait parlé dans un épisode de ce podcast.
Ah oui, et alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la situation en Italie. La seule chose que je connais, c'est que j'ai eu, en tant que syndicaliste à la Banque de France, j'ai eu un peu affaire à Mario Draghi quand il était président de la BCE, et il apparaissait comme un homme de dialogue. Il écoutait les syndicats plus que ne le faisaient, par exemple, ses prédécesseurs. Et c'est cet homme-là qui, après avoir gouverné l'Italie, a, paraît-il, aménagé en douceur l'arrivée au pouvoir de Meloni. Donc ça donne un peu le vertige. Je pensais que l'incarnation pure et du pouvoir du capital en Italie est aussi l'homme qui a permis l'arrivée de ces néofascistes au pouvoir. Et donc ça donne beaucoup à réfléchir dans le cas de la France.
Alors, une autre chose qu'on pourrait évoquer, c'est le fait que le programme économique et social du Front National a non seulement évolué dans le temps long, disons, entre les années 70-80 et aujourd'hui, mais même dans le temps court, c'est-à-dire que toute une série de propositions que faisait Marine Le Pen en 2017... pendant sa campagne présidentielle, notamment autour de la sortie de l'euro, mais aussi autour de certaines renationalisations, ou même de la retraite à 60 ans pour tous, ont disparu entre-temps. C'est-à-dire qu'en 2022, le programme n'était plus tout à fait le même et apparaissait clairement moins en rupture avec les mantras du néolibéralisme, plan français ou européen. À quoi ça tient, à ton avis ? Est-ce que justement, ce n'est pas aussi une manière de souligner le fait que, finalement, en matière économique et sociale, le RN, c'est beaucoup plus en continuité qu'en rupture avec toutes les politiques qui sont menées depuis des décennies et qui ont démantelé le système de protection sociale, les services publics, etc.
Alors je pense qu'effectivement, la continuité l'emporte sur les changements. Mais il est vrai que dans les années 2010, par exemple sur la question de l'euro, il y a eu une période où l'idée d'une sortie de l'euro pouvait être populaire dans les milieux populaires. Et là, le Front National de l'époque, je pense, est entré dans ce discours essentiellement par démagogie, en pensant que ça pouvait lui arrimer une partie de la population. Et évidemment, alors il y a eu la rupture spectaculaire quand Marine Le Pen, plus récemment, au début de la dernière campagne électorale, a dit « Oui, mais une dette doit être remboursée, c'est une obligation morale. » Et là, tout le monde a interprété ça comme un retour, une façon de rentrer dans le rang. Je pense que c'est plutôt clore un épisode de démagogie qui n'aurait pas débouché sur autre chose que la poursuite des politiques néolibérales sous une forme ou sous une autre. Mais le fait est qu'ils sont, il faut le reconnaître, une habileté réelle à capter tel ou tel mouvement d'opinion et en faire un moyen d'attirer l'adhésion d'une partie de la population, sans que jamais, me semble-t-il, le sens général de leur programme économique soit réellement modifié. Mais le fait est que c'est le programme du patronat fondamentalement, mais ça n'est pas exactement la même chose que Macron. C'est-à-dire l'arrivée de Le Pen de Le Pen ou de Bardella ou de leur groupe au pouvoir, ça serait sur le plan économique une politique néolibérale continuée et mobilisant les ressources de l'État au service du capital, en réalité. Encore plus que ce qui se fait aujourd'hui, peut-être. Mais ça serait aussi un autre usage de la violence. C'est-à-dire non seulement on aurait probablement un libre cours à la violence policière, mais il y aurait aussi libre cours donné aux groupes violents qui existent, qui se préparent, qui agissent déjà aujourd'hui dans une semi-légalité et qui bénéficieraient au minimum d'une complicité bienveillante des pouvoirs publics. C'est souvent comme ça que ça se passe dans ce genre de circonstances. Et en plus, là où on pourrait imaginer que le pouvoir économique actuel trouve des issues, c'est que l'arrivée d'un parti animé d'une idéologie d'extrême droite, de xénophobie, de racisme, d'exclusion d'une partie de la population, ça peut le donner à ces politiques néolibérales, dans le fond, éventuellement dissimulées sous la revendication d'un État fort, ça peut leur donner une justification idéologique qui manque aujourd'hui à Macron. Et la justification idéologique, c'est de désigner l'adversaire. L'adversaire, c'est l'immigré, c'est l'arabe, c'est l'assisté, c'est le fonctionnaire, c'est le juif. Enfin, bon, ils trouveront. Et là, je pense qu'on peut imaginer des scénarios dans lesquels ce type de configuration économique et politique finissent par devenir, par être considéré par une partie de la classe dirigeante comme une issue possible.
Oui, on s'imagine souvent que le fascisme, c'est simplement la répression étatique poussée jusqu'au bout, ou en tout cas une domination qui reposerait uniquement sur la force. C'est sans doute faux. En réalité, ce qu'a permis le fascisme, et s'il s'est maintenu au pouvoir durablement, c'est qu'il avait une assise au sein des masses, au sein d'une partie de la population, pas toute la population, clairement pas toutes les classes populaires, une bonne partie des classes, des couches moyennes, comme on dit, une partie des classes populaires, une partie des classes possédantes, même une partie conséquente, et surtout qu'il a fondé son succès en partie sur l'idéologie et a en quelque sorte représenté ce qu'on pourrait appeler un renouvellement hégémonique de la domination du capital en lui donnant une nouvelle assise, effectivement, autour du combat de la nation contre ses ennemis, alors soit c'est les ennemis extérieurs, soit les ennemis de l'intérieur.
Oui, et je pense qu'un des problèmes que la société française rencontre, c'est que face à la menace que représente le Front National et qui pourrait être une recomposition à la fois idéologique et politique de cet exercice de l'État au service du capital, c'est, me semble-t-il, une difficulté de la gauche à se positionner face à cette situation-là. Je pense qu'il y a un conservatisme à gauche qui consiste à... Enfin, au fond, l'idée reçue, c'est que la droite est pour le marché, la gauche pour l'État. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Ça contribue, me semble-t-il, à expliquer les difficultés qu'on a aujourd'hui pour combattre le Rassemblement national. Parce que là où Le Pen et leurs amis dénoncent les immigrés, la population, etc., il faudrait pouvoir dénoncer un adversaire contre lequel la quasi-totalité de la population peut se rassembler. Mais cet adversaire, c'est le capital. Si on se contente de dénoncer les riches sans expliquer que les riches sont riches parce qu'ils sont capitalistes, on n'est pas compétitif face à l'explication simpliste et violente qu'apporte l'extrême droite. Là aussi, l'extrême droite peut dénoncer les riches. Il ne suffit pas de dénoncer le capital. Il faut aussi être capable de donner des outils au mouvement social pour le combattre là où il est. Par exemple, dans les entreprises, là où les décisions sont prises en matière d'investissement, d'embauche, de recherche, de production, donc l'utilisation de l'argent. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on a un déficit à gauche de crédibilité sur ce terrain.
Oui, là, d'une certaine manière, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'on paye aussi plusieurs décennies d'abandon ou de relatif abandon par toute une partie des partis de gauche. Alors, évidemment, en premier lieu, le Parti socialiste, mais à une certaine époque aussi, le Parti communiste, oui. Notamment sous Robert Hue, de la logique de classe, tout le discours autour de l'exploitation d'une classe par une autre, de la grande majorité par une petite minorité, qui fait que, effectivement, les discours peuvent apparaître relativement et superficiellement analogues entre la gauche et l'extrême droite, parce que, par exemple, oui, effectivement, l'extrême droite a sa propre critique des élites, mais si on regarde bien, effectivement, les élites dans le discours de l'extrême droite ne sont jamais critiquées parce qu'elles exploiteraient ou parce qu'elles domineraient en tant que telles. Elles sont critiquées en tant notamment qu'elles seraient des complices de l'ennemi, alors l'ennemi sur notre sol, c'est-à-dire les immigrés présents, ou l'ennemi mondialiste, ce que Marine Le Pen appelle le mondialisme d'en haut, la finance, et le mondialisme d'en bas, c'est-à-dire les immigrés, les musulmans qui arrivent de pays extérieurs, notamment non européens, etc. Donc effectivement, si la gauche et d'une certaine manière l'ensemble des mouvements sociaux ne retrouvent pas le chemin d'une critique de classe, d'une critique de l'exploitation du travail par le capital, effectivement, on aura sans doute du mal à affronter l'extrême droite.
Oui, je le crois. Et alors, je pense qu'on a une difficulté supplémentaire, particulièrement en France, c'est que précisément la gauche, y compris la critique de classe, au XXe siècle, a énormément reposé sur l'idée d'une délégation de cette critique à l'État. Et c'est vrai que ça a bien marché. Je ne parle pas de l'Union soviétique, mais même les social-démocraties d'Europe du Nord, c'était des régimes qui corrigeaient les dégâts du capitalisme par de la fiscalité, par de la réglementation, par des protections juridiques des travailleurs, etc. Et je pense qu'on est encore dans ce logiciel-là, majoritairement à gauche aujourd'hui, alors que ce qui est manifeste depuis au moins la fin du XXe siècle, c'est que précisément l'intervention de l'État ne suffit plus à apporter des résultats pour les classes populaires. Ça, c'est, je pense, une des racines du ressentiment qui les anime aujourd'hui. Les gens souffrent terriblement du dépérissement des services publics. Ça nourrit un sentiment de déclassement à la fois individuel et collectif. L'idée d'un déclin du pays qui est le carburant des idéologies d'extrême droite, si rien n'est fait.
Oui, cette idée un peu que développait Mussolini dans les années 10 et 20, fin des années 10, début des années 20, que l'Italie constituait une nation prolétaire, en quelque sorte, une sorte de prolétarisation de la nation. Alors là, c'est un peu cette idée, c'est que notre nation se déclasse, quoi. Et c'est aussi, ça nourrit aussi la rhétorique, par exemple, de Trump, « Make America Great Again », avec toujours un mix entre elle se déclasse sur le plan de la compétition internationale, on va dire économique, mais aussi elle se déclasse par la présence sur son sol de populations qui la déclassent d'une certaine manière, qui ne sont pas européennes, qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas dignes, en quelque sorte, de la nation française.
C'est tout à fait ça, et il y a ce sentiment-là, je pense, dans la population française aujourd'hui. Et alors, ce qui est très grave, c'est que l'idée dominante, c'est que l'État est là pour réparer ce genre de dégâts. Et alors, ce qu'on observe, c'est que l'État est en déficit. Pour prendre l'exemple des retraites, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 80, le système de retraite a été un système qui apportait des progrès. La couverture sociale s'est élargie à l'ensemble de la population. Le niveau de vie des retraités a rattrapé celui des actifs. Et depuis le début des années 80, on pourrait expliquer de façon assez précise ce que représente ce tournant dans l'histoire politique et économique du pays. Depuis ce moment-là, on a au contraire des régressions. Et aujourd'hui, le pouvoir dit qu'il n'est plus capable d'assurer la retraite à 60 ans qui avait pourtant été accordée à la population en 1981. Et donc, la réaction spontanée, c'est d'accuser les politiques, à juste titre. Mais il faut voir derrière, effectivement, l'appauvrissement réel qui touche l'économie, la perte de capacité d'action de l'État pour corriger les défauts du système économique. C'est pas seulement de l'idéologie, c'est qu'effectivement, on aurait besoin de beaucoup plus d'argent pour réparer les services publics, les développer, pour augmenter les salaires, pour réaliser l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, etc. Et pour assurer une retraite à 60 ans pour tout le monde. Ce sont des aspirations qui sont légitimes. Mais celui qui dit aujourd'hui, il faudra donner l'argent nécessaire pour faire tout ça à travers les processus budgétaires, n'est plus crédible. Et c'est vrai. Ça suppose aussi d'aller plus loin dans la mise en cause, non seulement de la répartition des richesses, mais aussi de la façon de les produire.
Oui, c'est ça. C'est qu'il faudrait, par ailleurs, une confrontation politique et sociale avec le capital pour imaginer, même mettre en œuvre des mesures qui paraissaient peut-être simplement social-démocrates autrefois, où justement le capital, notamment dans les années dites des 30 glorieuses, qui n'étaient pas si glorieuses, avait plus de marge de manœuvre. C'est ça. C'était parce que les taux de profit étaient plus importants, voilà. Etc.
Tout à fait. Et aujourd'hui, on est dans une crise profonde de rentabilité du capital. Et quand on regarde un peu plus précisément les statistiques, c'est très difficile d'apporter des conclusions définitives, mais enfin, on a vraiment des indices convergents pour dire que la tendance à la baisse des rentabilités du capital qui s'est manifestée depuis la fin des années 60 n'est pas enrayée. On peut dire ça, je pense, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a une telle pression contre ce qu'ils appellent le coût du travail. Et là-dedans, il y a en particulier des dépenses pour la protection sociale et pour les services publics. Et alors, le problème, c'est que celui qui arriverait aujourd'hui en disant la solution à ça, c'est un État fort, mais le Front National peut dire ça aussi. Mais ça sera l'État fort pour mettre les immigrés dehors et mettre de l'ordre dans ce pays, attaqué de toutes parts, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il faudrait pouvoir être capable d'opposer à cette séduction de l'extrême droite un renouvellement, en quelque sorte, du logiciel des forces porteuses du mouvement social. Or, ce mouvement social, il est là. Il y a quand même des millions de gens qui descendent dans la rue. Et je pense que les gens qui font grève ou qui vont en manifestation sont plutôt des gens qui s'immunisent plus ou moins contre la tentation de l'extrême droite, même si certains vont peut-être voter Le Pen aux prochaines élections. Donc il y a vraiment un problème très immédiat, très urgent, d'un affrontement politique pour savoir ce qui va sortir du mouvement qui est en cours.
Oui, alors justement sur ce thème de l'État fort, je trouve ça intéressant, on peut y revenir peut-être sous deux angles. Un État fort pour insister sur le fait que ça ne veut en fait pas dire grand-chose si on ne précise pas fort contre qui. Parce que d'une certaine manière, fort avec les faibles, faible avec les forts, on connaît la maxime et d'une certaine manière, elle est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Hein. L'État est déjà fort avec les faibles, avec les classes populaires, avec les immigrés, avec les mouvements sociaux depuis pas mal d'années, avec les quartiers populaires également depuis très longtemps. Un bon exemple, c'est Orban. Orban, on pourrait se dire que c'est un État fort, là encore, contre les migrants, contre les luttes féministes, LGBT, etc. Mais c'est un État fort aussi pour un marché libre. C'était une formule qui était utilisée en Allemagne au début des années 30, un État fort pour un marché libre. Orban, qui est un des modèles de Marine Le Pen et un des modèles pour l'ensemble des droites ultra-conservatrices et des extrêmes droites au plan mondial. Et Orban, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés le plus bas en Europe et une pression mise pour qu'il n'y ait pas de convergence à un niveau faible, mais un niveau malgré tout plus élevé que la Hongrie actuelle du taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés en Europe. C'est la plus faible durée d'indemnisation du chômage en Europe, 3 mois. C'est un impôt sur le revenu qui est une flat tax, c'est-à-dire une taxe qui touche l'ensemble de la population, aussi bien les riches que les pauvres, au même niveau. C'est une flexibilisation du marché du travail très accélérée au cours des 10 dernières années, sous Orban. Et évidemment, c'est des mesures antisyndicales et anti-grève extrêmement dures. Donc, on voit que, d'une certaine manière, dans quelle direction pourrait aller un pouvoir d'extrême droite, je veux dire, à travers cet exemple d'Orban. Donc, et Orban apparaît justement comme un homme fort, un État fort, mais clairement pas un État fort contre le capital.
Oui, oui. Et alors, effectivement, on dispose d'une théorie, puisqu'on a analysé l'état du capitalisme depuis la Deuxième Guerre mondiale comme un capitalisme monopoliste d'État dans lequel une dévalorisation massive de capital public, donc une partie de la production s'exerce sans exiger le taux de profit moyen pour permettre au capital privé d'augmenter son propre taux de profit. Et ce mécanisme-là, il continue d'exister, même après la libéralisation des années 80, l'État n'a pas disparu. Il continue d'intervenir massivement. On a beaucoup commenté, à juste titre, les études qui montrent que les aides publiques aux entreprises représentent plus de 160 milliards en France en ce moment. Et encore là-dedans, les auteurs de l'étude signalent qu'ils ne comptent pas, par exemple, le soutien apporté par la politique monétaire, c'est-à-dire l'apport de liquidités au système bancaire et au marché financier à des conditions inférieures à celles du marché qui permettent de remonter aussi la rentabilité des opérations financières et des banques. Et donc, ce mécanisme-là continue, c'est-à-dire qu'on a une intervention de l'État qui est probablement encore plus forte aujourd'hui qu'elle n'était au XXe siècle et qui est encore beaucoup plus axée sur le soutien au profit. Parce que c'était dit à l'instant, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il faut qu'il continue. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui explique l'obstination de Macron. C'est qu'il faut absolument continuer à aller dans ce sens parce que derrière, il y a l'exigence de la rentabilité du capital qui pousse.
Alors peut-être pour clore cet entretien, on peut revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, qui est la politique économique du fascisme historique, c'est-à-dire du fascisme de l'entre-deux-guerres. Il y a cette illusion, en particulier dans le monde anglophone, aux États-Unis notamment, que d'une certaine manière, le fascisme aurait été une rupture avec le capitalisme, aurait eu un caractère socialiste. Bon, il y a d'ailleurs le mot socialisme dans national-socialisme, qui est le nom officiel du parti nazi, le parti national-socialiste des travailleurs allemands. Hein. Et par ailleurs, on sait que Mussolini était un ancien dirigeant du Parti socialiste italien qui avait rompu au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a cette illusion que le fascisme aurait, d'une certaine manière, initié une rupture avec le capitalisme et aurait répondu aux attentes, en quelque sorte, des classes populaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Effectivement, si on adoptait cette vision des choses, ça apporte énormément d'eau au moulin de Marine Le Pen aujourd'hui pour le crédit de prendre en compte la souffrance sociale du pays. Bon, alors ce qu'on a pu voir dans l'histoire, mais c'est pas mon domaine de spécialité, c'est que une fois arrivé au pouvoir, le fascisme, il a commencé par mettre de l'ordre là où il y avait des revendications sociales et renforcer le pouvoir des fractions les plus autoritaires du capitalisme qu'un des pays concernés.
Quand tu dis mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils ont réprimé de la manière la plus brutale, ah oui. C'est-à-dire par l'interdiction des organisations ouvrières, ah oui. Syndicales et politiques, et assez vite dans le cas allemand. Alors en Italie, ils ont beaucoup plus recouru à l'emprisonnement et à l'exil. Oui. En Allemagne, les dirigeants du mouvement ouvrier, aussi bien d'abord communistes, mais ensuite socialistes et par ailleurs anarchistes, syndicalistes, etc., ont été mis dans des camps très vite.
Oui, oui. Oui, c'était vraiment une guerre au mouvement ouvrier, le fascisme historique, qui s'expliquait précisément comme une réponse à une montée et une radicalisation du mouvement ouvrier au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ça paraît tout à fait établi d'un point de vue historique, me semble-t-il. Ensuite, évidemment, il faudrait analyser, mais c'est vraiment pas mon domaine, les politiques économiques des années 30, en Allemagne, en Italie, ailleurs, et les tentatives de sortie de crise crise et leur échec qui finissent par déboucher aussi sur la catastrophe finale. Mais bon, je ne préfère pas m'étendre là-dessus, parce qu'il y a d'excellents historiens qui ont travaillé là-dessus et qui ont tiré des conclusions, me semble-t-il, assez définitives sur la nature réelle de ce que c'est qu'un pouvoir fasciste ou inspiré par ces idéologies d'extrême droite.
Oui, alors peut-être qu'il y a deux illusions qui nourrissent cette idée-là. C'est, la première, c'est que le fascisme s'est hissé en quelque sorte sur les épaules de la petite bourgeoisie, enfin en profitant de la rage d'une petite bourgeoisie en déclin, mais aussi des anciens combattants de la Première Guerre mondiale déçus de ce qui s'est joué après la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est une première chose, c'est que dans sa période où il n'est pas au pouvoir, le fascisme se prétend l'incarnation plutôt de la petite bourgeoisie et non pas du grand capital, et même propose une critique du grand capital. Et une fois au pouvoir, une fois le fascisme transformé en régime, effectivement, il va servir les intérêts plutôt des fractions dominantes du capital financier, du grand capital industriel, etc. Et l'autre élément qui peut-être nourrit l'illusion du fascisme comme rupture avec le capitalisme, c'est qu'effectivement l'usage de l'État et le fait qu'ils ont fait intervenir sans doute l'État et notamment les commandes de l'État, notamment en Allemagne via des commandes à l'industrie militaire, l'État est fortement intervenu dans l'économie. Il me semble que là, ce n'est pas forcément d'ailleurs ce qui distingue le fascisme des États, enfin des économies de la même époque, puisque c'est aussi ce qu'on voit par exemple dans les États-Unis des années 30 sous Roosevelt et dans les années 40. Voilà. C'est que l'intervention de l'État s'accroît dans, en réalité, la plupart des pays capitalistes dominants à ce moment-là.
Ah oui, alors ça s'insère bien dans une approche un peu théorique, puisque l'installation, l'essor de ce qu'on a pu appeler le capitalisme monopoliste d'État se manifeste de façon évidente à partir des années 30 comme réponse à la crise de surécumulation des années 30. Et c'est vrai qu'en Allemagne, en Italie, ça prend la forme d'un pouvoir fort dirigé par des groupes fascistes. Aux États-Unis, ça prend la forme des politiques dont l'origine se trouve dans la présidence Roosevelt, avec des interventions publiques pour aménager la vallée du Tennessee, etc., pour produire l'électricité. Et en France, ça prend la forme des réformes du Front populaire et surtout de la libération, avec les nationalisations, avec toute une série de dispositions, avec donc un côté très contradictoire. C'est-à-dire que pour pouvoir survivre d'une certaine façon, le système économique capitaliste s'est nié lui-même en introduisant dans son propre fonctionnement une part considérable d'intervention de l'État. Et ça a pris des formes diverses, une forme catastrophique avec le fascisme, une forme qui a eu un bel avenir dans les pays qui sont restés des démocraties libérales. Et alors c'est un peu notre problème aujourd'hui, parce que ça a très bien marché pendant un certain temps. Le problème aujourd'hui, c'est que ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça ne suffit plus à maintenir la réponse aux exigences de rentabilité du capital. Et je pense que c'est une des racines profondes de la crise, non seulement économique, mais aussi politique, morale, que nous vivons aujourd'hui. Et je pense qu'il y a effectivement là matière à réflexion pour pouvoir opposer à la menace de l'extrême droite une réponse qui soit opératoire dans la situation politique actuelle et comprise par la grande majorité de la population à laquelle il faut s'adresser pour pouvoir repousser la menace fasciste.
Merci beaucoup, Denis Durand.
Merci.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Spectre.